Salut.
Salam alaikum.
Guten Tag. Namaste.
Hola.
Bon dia.
Bienvenue dans l'émission de la découverte, une émission faite par des jeunes pour les jeunes.
Qu'avez-vous découvert dernièrement?
Le quartier de la Chambesse. Le Chambert.
Non.
Nancy, c'est quoi? C'est la Martel.
Ouais.
La Martel, parce que je viens d'habiter.
D'accord. La dernière chose que j'ai appris, c'est que j'en apprends tous les jours.
Je fais du chant et j'ai appris des nouvelles chansons dernièrement.
J'ai écouté du disco dernièrement. C'est trop bien.
Des paysages. Oui, la Croatie, voilà, c'était cet été.
Ce que j'ai découvert aussi, c'est dans les langues, par exemple les Chinois, le mot pain n'existe pas. Il n'existe pas le pain chez eux. Ça fait qu'ici, tout ce qu'on dit, le pain, gagner son pain, le pain de la charité, tout ça, ça n'existe pas. Moi, ce que je veux maintenant, c'est découvrir des Chinois qui m'expliquent qu'est-ce qu'ils mettent à la place du pain.
La sagesse. Il n'y a rien d'important, de plus important dans la vie que la vie. Voilà, l'argent, c'est jamais un souci.
La vie est courte, il faut en profiter.
Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir?
Ma passion à moi, ce serait de voyager.
Découvrir le monde.
J'aimerais bien aller au Canada. Ça m'attire, j'ai envie de connaître, de découvrir.
Plutôt l'Inde, les pays asiatiques.
J'aimerais découvrir que l'humanité est encore positive et qu'elle est pleine de jeunes comme vous qui font des choses et que le monde va bouger dans le bon sens, enfin.
Nouvelle-Calédonie. Je devais déménager là-bas. J'y suis allé pendant 2 mois chez une amie de ma mère. Quand je suis parti de Paris, il faisait froid, on était en hiver. Quand je suis arrivé là-bas, il faisait chaud et humide. On est arrivé à Nouméa en pleine nuit. Le lendemain, nous sommes allés nous promener. J'ai découvert la ville en plein jour. C'était exotique. Il y avait beaucoup plus de végétation qu'en France. Nous sommes allés à la plage, l'eau était plus claire, le sable plus fin. J'ai rencontré beaucoup de personnes pendant cette journée. Et pendant les 2 mois où je suis resté là-bas, j'ai pu découvrir plein de choses. J'ai dormi dans une maison traditionnelle kanak, avec un toit en paille et des murs en terre. J'ai mangé du manioc et j'ai découvert la jungle, avec des arbres partout dans un paysage un peu montagneux. Je garde un bon souvenir de ce voyage en Nouvelle-Calédonie. Un jour, j'aimerais bien aller aux États-Unis.
Je m'appelle Étienne et j'ai maintenant 24 ans.
Moi c'est Johan et j'ai 24 ans aussi.
Quel était le projet?
On est trois copains qui se sont rencontrés en école d'ingénieur d'agronomie. Et pendant une année de césure, on s'est dit qu'on allait faire un projet de découverte de l'agriculture urbaine, donc de l'agriculture en ville, à travers l'Europe sur des vélos. On est parti 8 mois pour faire 12 000 km à travers près de 20 pays européens. Et donc là, on est en train de restituer tout ce qu'on a vu et d'échanger, de discuter avec un large public pour partager ce qu'on a découvert, et notamment via l'expo photo qui est présente à l'espace Montpellier Jeunesse.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
On commençait par 50 bornes par jour à peu près, et puis à force d'étapes, à la fin, on pouvait faire 120 bornes facilement. Et notre corps, c'est 175 bornes chargées, ouais, entre Poznan et Berlin.
Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Est-ce qu'il y a eu un pays que vous avez préféré à d'autres?
Je pense que les pays qu'on a préférés, c'est ceux qui nous ont surpris, en fait. On a beaucoup aimé le Portugal, on a beaucoup aimé la Bosnie aussi, un pays sous protectorat, qui n'est pas vraiment d'identité nationale, qui est en train d'essayer de se la construire, mais à cause de la guerre de Yougoslavie, a subi cette espèce de morcellement, là, et puis d'assaut des pays frontaliers. On a beaucoup aimé l'Albanie, ses paysages et sa culture qui est outre-européenne, en fait, alors que c'est en Europe. Dans le même genre, on a énormément apprécié la Roumanie. C'est un pays vraiment, vraiment superbe.
Effectivement, c'est les pays qui nous ont surpris, qu'on a apprécié le plus, et dont la gastronomie nous a surpris aussi. C'était très important.
On se sentait pousser les ailes à bicyclette.
À titre personnel, qu'est-ce que vous avez découvert ?
Au-delà du fait qu'on a découvert plein de choses en termes d'agriculture, quoi. Nous, bon, on est en école d'agriculture, on aime beaucoup ça. Des jardins sur des toits, des jardins communautaires, avec des jardins d'intégration avec des personnes déplacées, tout ça. Donc des projets très très forts, socialement parlant aussi. Donc ça, c'est le côté agricole, mais il y a le côté aussi humain et entre guillemets, découverte de la culture européenne, quoi. Moi, je connaissais très peu l'Europe avant ça, qu'à travers quelques livres d'histoire et malheureusement la télé, quoi. On ne savait pas que l'Albanie était un des pays les plus pauvres du monde, et c'est à même pas 2000 bornes de chez nous. Découvert des paysages qu'on ne soupçonnait pas aussi. Finalement, on dit l'Europe, c'est plus ou moins tout pareil, quoi. C'est comme chez nous, pourquoi aller voir ? Et finalement, pas du tout, quoi. Il y a vraiment de très belles choses à voir, très belles choses à découvrir. Donc moi, c'est ça que je retire de ce voyage-là. Et finalement, le message que j'ai envie de passer, c'est aller voyager en Europe, que ce soit dans les villes ou dans le milieu rural, il y a vraiment de très belles choses à voir et de très belles choses à découvrir. Par le prisme notamment du voyage à vélo, c'est encore mieux, parce que quand on est à vélo, on a le temps de voir les choses, mais on a le temps aussi de s'arrêter. Donc c'est génial pour ça.
Le fait de voyager à trois, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vivre pendant 8 mois, tous les jours, toutes les heures, avec les mêmes personnes. Et même on blaguait au retour en se disant qu'on n'avait jamais vécu ça, même avec nos copines, quoi. Et donc c'est créé entre nous quelque chose de très fort, quoi, de très puissant. Avec des super moments, et puis aussi des moments, voilà, de tension, des moments de remise en question, des moments où il faut se dire les choses qui marquent, quoi, pour réussir à avancer et aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, on est content de ce voyage-là, et puis ouais, c'est vrai que ça nous a appris beaucoup, à la fois sur les autres et puis sur nous-mêmes, quoi.
Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes.
Et quel est votre meilleur souvenir du voyage ?
Mon Dieu. Ah là là, c'est du direct, là ? Bon, ok, il doit y en avoir plein. Là, je ne les retrouve pas forcément, mais c'est quelque chose que je peux vous dire, c'est que le voyage à vélo, au cours d'une journée, il peut se passer énormément de choses. Il suffit d'être dans une pente et d'avoir un col de 40 km dans la pente pour vraiment s'arracher les genoux et avoir vraiment du mal à monter, quoi. Donc là, ça ne va pas. Et puis une fois qu'on arrive en haut, qu'il y a le paysage qui s'étend devant nous et puis la descente derrière, là, c'est le top, c'est l'adrénaline à fond, quoi. Donc ouais, le voyage à vélo, c'est vraiment passer de très bas à très haut. C'est un ascenseur émotionnel incroyable, quoi.
Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre.
Autre chose, sinon, plus de l'ordre du projet de l'agriculture urbaine, des moments géniaux, je me souviens d'un notamment en Espagne, à Salamanque, où on est tombé comme ça par hasard sur un projet qui était mené par, je crois que c'était une paroisse, et ce prêtre avait vraiment cette volonté d'accueillir des immigrés, en fait, qui arrivaient à Salamanque, qui n'avaient nulle part où aller, et en fait qui leur proposait de se réinsérer dans la société via une activité agricole périurbaine, via une ferme dans laquelle ils élevaient des brebis, donc avec une activité de vente, de transformation, d'élevage. Et en fait, on est arrivé comme ça dans une journée de cohésion et où on voyait tous ces gens de toutes ces nationalités qui étaient là, et ça faisait vraiment chaud au cœur, et des moments comme ça de frissons où on s'est dit, mais waouh, quoi. Ce genre de projet, ça peut mener vraiment très très loin.
À bicyclette.
De 0 à 10 ans, tu apprends à grandir. Moi, je suis né à La Payade, entouré de mes frères et sœurs. La Payade, c'est mon quartier. De 10 à 15 ans, tu t'éveilles un peu, tu mûris. Et à 15 ans, tu ouvres les yeux, tu prends conscience, tu découvres la vie. L'injustice, la Palestine, les mecs des quartiers sans travail. Les jeunes de quartier qui vont dans des collèges sans mixité où on ne peut pas progresser. De 15 à 20 ans, tu cherches à profiter, tu t'amuses. Et tu deviens plus mature, tu découvres l'autonomie. Il faut commencer à prendre sa vie en main. On ne peut pas passer tout son temps sur le dos de ses parents.
et de 20 à 25 ans, tu commences la vraie vie. C'est celle qui me reste à découvrir.
Moi, j'aimerais découvrir la vie des riches. Voir ce que ça fait de voyager en première classe. Ne pas s'occuper du prix. Tu aimes, tu prends, t'achètes direct. Sans te soucier si ton compte en banque est à découvert. Voyager, découvrir plein de pays, d'autres cultures. On n'a qu'une seule vie. Donc si j'étais riche, je ferais en sorte de découvrir tout avant qu'il ne soit trop tard. Certaines personnes disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais en réalité, dans ce système, aujourd'hui, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas s'habiller, vivre et prendre soin de soi. Si on donnait de l'argent aux pays pauvres, je suis sûr que le sourire des gens pauvres et miséreux apparaîtrait. Le bonheur ferait surface. C'est triste de voir des jeunes qui mentent sur leur âge pour pouvoir travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, avoir un salaire de misère de 1 voire 3 euros. Les multinationales qui abattent les arbres en Amazonie, qui détruisent les habitats des communautés amérindiennes. Certains se suicident même à croire que l'humanité est manipulée par des pièces et des billets. Alors moi, je pense que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y participe.
Regarde, j'ai téléchargé une application. Ah ouais? Quel genre? Genre, tu cliques, tu dis par commande vocale où tu veux y aller et il t'amène.
Ma jure, c'est quoi le nom?
TLP, pour téléportation.
Je la télécharge et je la teste. Dans ce cas-là, on se rejoint où?
Je sais pas, Los Angeles?
C'est bon, vas-y à toutes.
Téléportation Los Angeles.
J'y crois pas, ça marche?
Eh ouais, t'as vu, c'est de la bombe. On fait les magasins?
On va faire ça bien.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
Mercy.
Pour moi, avoir un chien est nécessaire pour apprendre une petite mais très importante partie de la vie. Cela permet d'apprendre le respect pour l'animal. Pas uniquement pour les chiens, mais aussi pour tous les autres animaux. Cela permet d'apprendre la définition du mot « obligation ». Car un petit chien demande beaucoup d'attention, de responsabilité, mais aussi beaucoup d'amour. Je parle par expérience. Car il y a déjà quelques mois, 7 mois exactement, j'ai décidé d'adopter un petit staff. La voir arriver en sautant partout, on aurait dit une petite boule noire et blanche. Pourtant, après 7 mois, elle s'est transformée.
Découvrir, c'est bien, mais parfois, il ne faut pas laisser les autres tout découvrir sur soi. Moi, j'aime pas tout dire. Il y a des choses qui ne concernent que moi. Ce que je ressens, je ne veux pas le dire aux inconnus. Je dis tout seulement à ma cousine. Elle me raconte ses histoires et je lui raconte les miennes. J'ai confiance en elle, elle a confiance en moi. Je ne juge pas ce qu'elle me dit, elle ne me juge pas non plus. Mais même à ma cousine, je ne dis pas tout. En fait, j'aime garder tout pour moi. C'est ma vie, c'est ma personnalité. Ça peut ne pas plaire aux autres. L'important pour moi, c'est d'être bien avec moi-même, d'avoir confiance en moi.
Yannick Guégan, je suis acteur, comédien, beatboxer. Ouais, je fais du human beatbox, je suis directeur d'un festival de hip-hop aussi à Bruxelles. Là, je suis bon, ici aussi parce que je suis comédien et on est dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Collège en tournée. Je viens spécialement à Montpellier pour retourner ici, notamment dans les écoles, pour parler de mon histoire à travers le spectacle que j'ai écrit, qui s'appelle Le stress de l'hippocampe.
Pourquoi vous êtes devenu comédien ?
Ça a commencé au collège. J'étais plutôt celui qui faisait rire les gens de la classe à l'époque. Je cherchais un truc pour m'épanouir un peu, si tu veux, pour m'éclater. Et là, je me suis dit que c'est vrai qu'il y avait des trucs de la comédie, un peu comme nous, tu vois, qui se faisaient à l'école. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer à faire du théâtre comme ça, quoi. Puis, je dois avouer qu'il y avait une jolie fille aussi dans la pièce de théâtre. Donc, ça m'a aidé. Ça m'a donné quand même aussi un statut dans l'école, si tu veux. Du coup, j'avais plein de copains, plein de copines, parce que les gens venaient voir le spectacle, ils trouvaient ça chouette. Et de fil en aiguille, je me suis trouvé une place. Et à un endroit où moi j'avais l'impression d'être un mauvais élève, je devenais aussi le meilleur acteur de l'école. Je n'étais pas juste un cancre, j'étais aussi quelqu'un qui réussissait par ailleurs et les gens me reconnaissaient par ça. À l'époque, au collège, je me sentais sous-équipé. Ce que les autres tenaient en 10 minutes, moi ça me prenait des heures et des heures. Et encore, j'imprimais toujours pas. À la maison, je ramenais des zéros pointés alors que j'ai passé le week-end à étudier. Et vous savez ce qu'il me disait, mon père ? Un bon à rien. T'as rien d'autre qu'un sale bon à rien. Eh, dis pas ça, papa. J'ai étudié, je te dis, j'ai étudié. Tu penses vraiment que je vais avaler ça? Mais je te jure, devant la feuille, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai paniqué, c'est comme si je savais plus rien. Écoute-moi bien, Yaël. Tes problèmes d'amnésie, moi, j'y crois pas. Alors à partir de maintenant, tu te remets sérieusement au travail. Et ton théâtre, là, que t'adores, là, c'est terminé. On a un petit endroit dans le cerveau, c'est la porte d'entrée de la mémoire qui s'appelle l'hippocampe. Et donc là, le spectacle, c'était l'idée que c'était le stress de l'hippocampe, puisque mon personnage, et moi en fait, à l'époque, j'avais l'impression que j'avais une mémoire défectueuse, que je ne savais pas retenir.
Vous disiez que vous avez eu des problèmes de mémoire, mais pourtant les textes de théâtre et de scène, c'est dur à apprendre tout ça, non ?
Très bonne question, parce que tout ça, je le développe dans le spectacle. Donc déjà, à l'école, j'avais des problèmes à apprendre mes textes. D'ailleurs, j'avais des trous pendant les spectacles, c'était pas marrant. Et après, quand j'ai réussi mon baccalauréat, j'ai pu rentrer à l'École nationale de théâtre, parce que par contre, j'étais bon comédien. Mais là, j'ai eu des problèmes de mémoire. Et c'est à ce moment-là, je vous raconte la pièce, je suis pas sûr que vous allez venir voir le spectacle, mais c'est à ce moment-là que donc, j'ai rencontré un spécialiste de la mémoire. Ça existe, ça s'appelle un mnémoniste. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a aidé à essayer de pallier à mes problèmes de mémoire. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, on se crée nous-mêmes des problèmes de mémoire. Mais notre mémoire, on a tous la même. Elle est identique au départ, en fait, au niveau biologique. C'est la manière dont on structure sa mémoire, c'est la manière dont on range ses affaires et tout ça qui fait que, d'une certaine manière, après, on va donner l'impression de bien retenir ou de pas bien retenir. Mais pour moi, c'était important de l'entendre parce qu'au début, je croyais que j'étais handicapé. Alors, si vous passez votre temps à croire que vous êtes handicapé, fatalement, vous présentez que ce handicap et puis vous dites « j'y arriverai jamais ». Cette personne m'a fait comprendre que non, en fait, il fallait que je change ma manière d'apprendre parce que j'apprenais en étant distrait, en faisant d'autres choses et donc j'arrivais pas à mon objectif. Et je redis ici, mon objectif, c'était pas d'être le meilleur à l'école. Mon objectif, c'était d'être comédien. Et donc, si je pouvais pas devenir ce que je voulais vraiment être, fatalement, je me tirais une balle dans le pied et j'allais finir malheureux. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai été voir ce spécialiste qui m'a aidé. Il y a un autre truc dont on discutait aussi, c'était les moyens mnémotechniques, c'est-à-dire les manières de retenir. Est-ce que vous avez des techniques pour essayer de mieux retenir
les trucs qui vous... Pour apprendre les leçons, je les lisais.
Ouais.
Des fois même après je les chantais pour les retenir comme une chanson et je les retenais facilement après.
C'est marrant parce que tous les collégiens ils disent qu'ils font ça, ils utilisent la chanson maintenant. C'est dingue, moi à mon époque on faisait pas ça quoi. Maintenant apparemment vous utilisez tous des chansons et ils disent ouais c'est un super moyen pour retenir ces leçons et pour pouvoir après les retenir. À l'époque, il y avait deux choses qui étaient importantes. C'était, moi, j'étais au début du rap. C'était Benebi, des choses comme ça en Belgique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ces vieux dinosaures du rap dans les années 80. J'étais déjà un certain âge. Donc, il y avait ça qui me tenait à cœur alors que tout le monde écoutait Nirvana et tout ça. Tu vois, c'était autre chose. C'était plutôt l'époque du grunge chez nous à l'époque. Il y avait ça qui m'intéressait et il y avait le théâtre. Et c'est vrai que l'école, en soi, je ne comprenais pas trop pourquoi j'y étais, en fait, quel intérêt ça avait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que si j'avais pas eu le théâtre, si j'avais pas eu un endroit de passion, d'épanouissement, franchement, je pense que j'aurais décroché aussi. Parce que l'école ne m'intéressait pas suffisamment. J'arrivais pas à voir quel était le projet derrière. Et c'est vrai que par le théâtre, j'ai réussi à m'accrocher. C'est ça qui m'a donné envie de réussir mes études. Mais après, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais perdu du temps à l'endroit de ma passion en n'ayant pas développé ma mémoire pour pouvoir être bon après dans le théâtre. Il y a un truc que moi, en recherchant, que j'ai découvert, il y a un type qui est tombé, je crois, du deuxième étage, un truc comme ça, il n'est pas mort. Mais tout d'un coup, il a eu accès au reste de son cerveau, que nous, on n'a pas accès. Il était capable de dire 15 ans avant où est-ce qu'il était ce jour-là, cette heure-là, et avec qui il était, qu'est-ce qu'il faisait. En fait, quand on a compris ça, on a compris qu'en fait, tout ce que vous vivez là, tous les instants qu'on est en train de partager, ils sont dans votre cerveau. Votre mémoire, elle est illimitée, elle prend tout. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ce type, maintenant, il est fou. Parce qu'en fait, il retient tout et il a accès à tout son passé. Et c'est vachement déstabilisant, en fait, d'avoir accès à tout ce qu'on a déjà vécu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une sélection qui se fait pendant la nuit, pendant quand vous vivez, tout ça. Parce qu'en fait, il y a une sélection avec ce qui est pour vous le plus important. Donc, la chose primordiale par la mémoire, c'est qu'il faut avoir envie de le retenir. Ça, c'est une première chose.
Donc, ça, c'est le plus marquant. Enfin, par exemple... avec quelque chose de marquant, ça va toujours rester dans le
temps. Ah, génial. Ça, c'est très intéressant, parce que j'en parle en spectacle aussi. Ça, vous savez, c'est qui fait ça? Qui marque vos souvenirs? C'est l'amygdale. Comme l'hippocampe, il y a un petit endroit, un petit point qui s'appelle l'amygdale. Et lui, il souligne vos souvenirs avec des émotions. La colère, joie, machin, tout ça. Et c'est pour ça que vous vous souvenez de ça, en fait. C'est, si on vous enlève ça, vous n'aurez plus ces sentiments.
C'est plus c'est fort, plus on se souvient, je pense. Enfin, c'est...
Tout à fait. Plus c'est fort, plus on s'en souvient. Tout ça, c'est pour vous dire que, par exemple, quand vous apprenez de la matière à l'école, si vous n'essayez pas de l'attacher à quelque chose que vous connaissez déjà ou qui a un intérêt pour vous ou que vous essayez de trouver un intérêt dans la matière, vous aurez vachement du mal à l'apprendre parce que ça n'est pas utile pour vous. Mais par contre, ce qui est utile, c'est l'objectif derrière. C'est de se dire, moi, j'ai envie de réussir mes études juste pour qu'on me foute la paix et que je fasse ce que j'ai envie, par exemple.
Je m'appelle Yacine, j'ai 17 ans, je cherche à découvrir mon futur métier. L'année dernière, j'étais en coiffure et comme je n'ai pas trouvé de stage en fin d'année, ils ne m'ont pas accepté. Du coup, j'ai abandonné. Aujourd'hui, je suis en MLDS. C'est une année de transition qui me permet de découvrir des métiers afin d'avoir une formation l'an prochain. Pour le moment, j'ai fait un stage en tant qu'éducateur sportif. Mon rôle était d'aider des jeunes qui faisaient du football en assistant à l'entraîneur. Ils avaient entre 8 et 12 ans. Au début, c'était un peu difficile car je ne savais pas trop comment faire. Heureusement, l'entraîneur était là et je l'ai observé. Ça m'a aidé à comprendre comment faire avec les enfants. C'était intéressant d'aider les enfants à être plus forts physiquement et soudés en équipe. Une équipe qui n'est pas soudée ne peut rien gagner. J'étais un peu adulte à ce moment-là, un véritable entraîneur. J'étais à l'écoute des jeunes, il faut être gentil, ne pas leur crier dessus et les rendre heureux. Quand on les respecte, ils nous respectent. Aujourd'hui, je suis content d'avoir découvert ce métier qui m'offre des possibilités pour mon avenir.
J'ai rêvé que j'avais découvert une île à 100 mètres des îles Canaries. Quand je l'ai découverte, j'ai appelé le journal Le Monde pour leur parler de l'existence de mon île que j'ai appelée Shineland. J'ai créé un hôtel de luxe, des restaurants et un héliport avec une petite piste d'atterrissage. Soudain, je me suis réveillé et j'ai découvert que ce n'était malheureusement qu'un rêve et que j'avais cours de maths.
Merci à vous tous qui nous avez écoutés.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission.
Ben,
Kevin,
Dunia,
Mathéouche,
Faïda,
Bilal,
Sami,
Yassine,
Dolores,
Omar, Léandré.
Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cette émission radio.
Merci à Yannick Guégan, comédien et auteur de la pièce Le stress de l'hippocampe.
Merci à Étienne et Johan qui nous ont présenté le projet Agro-Vélocité.
Merci à notre prof, M. Tassi, à Sandy de la Maison des Ados, à Colline et Élise de Wakadi. Wakadi, ça veut dire
on a quelque chose à dire.
Je te dis.